Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Début d'un nouveau cycle d'émissions Archivif, un voyage entre culture, patrimoine et sport dans le département de l'Ardèche. On va essayer de faire du lien entre tout cela, savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est toujours le leitmotiv de cette émission en partenariat entre différentes radios associatives ardéchoises et le département de l'Ardèche. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Dupuis. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes directeur délégué au sport et à la vie associative au sein du conseil départemental de l'Ardèche. À vos côtés, Enzo Roux. Bonjour Enzo.
Bonjour.
Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission pour les merveilles de l'Ardèche. Et enfin, troisième invité autour de cette table, il s'agit de Michel Rotterdam. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes chef du service culture jeunesse au sein du conseil départemental de notre beau département. Avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, messieurs, Enzo, un petit rappel de la place des archives dans ces émissions. C'est le fil rouge, les archives de l'Ardèche, le fil rouge de ce magazine Archivif, comme son nom l'indique.
Tout à fait, les archives avaient pris la direction de la saison 1 et nous ont donné la suite. Alors voici une place qu'on aimerait leur laisser à l'antenne tout au fil de cette deuxième saison, avec cette ouverture sur le patrimoine de notre département. Albin Mazon, alias Dr Francus, parcourait déjà le département au cours du 19e siècle et il nous livre sa vision du patrimoine et du paysage ardéchois. Dans son voyage au pays helvien, il écrit « Il est joli votre pays helvien, mais nous ne sommes pas là pour chercher des sujets de tableaux, mais pour évoquer les plus vieux souvenirs historiques de notre pays et saluer ses plus beaux et antiques monuments. » Avant de compléter par « C'est ici que la vieille Helvie a laissé son cachet, c'est ici que tout parle d'un passé grandiose que les ravages du temps ont partout ailleurs effacé. » Albin Mazon décrit en effet ici la province gauloise au sud Ardèche qui a laissé sa place, la première province du Vivarais qui a ensuite laissé sa place au département de l'Ardèche et qui fait état en effet d'un patrimoine bâti très remarquable et des traces disponibles et observables depuis la préhistoire dans notre département.
Justement, alors cette nouvelle saison, ce nouveau cycle d'émissions, puisqu'il démarre sur nos antennes, que ce soit sur RCF, Fréquence 7 ou RDB, la radio des Boutières, en cours de saison, va prendre une nouvelle thématique très liée au patrimoine et aux merveilles de notre département, Enzo.
Et tout à fait, en effet, le département de l'Ardèche est jalonné de patrimoine tant préhistorique, antique, médiéval, moderne et bien sûr contemporain. On passe des grottes au moulinage, aux soieries, aux cités industrielles de Viviers par exemple, mais aussi les traces gallo-romaines de Jastres et Alba la Romaine. C'est tout un panel de patrimoine que nous allons tenter de vous faire découvrir sur cette deuxième saison des Archivifs. Et je me proposais de commencer par un petit tour de quelques chiffres concernant le patrimoine dans notre département. Tout d'abord, un nombre de sites classés et inscrits monuments historiques. Aujourd'hui, on en compte à peu près 310 édifices et objets classés dans notre département. À noter que la commune de Bourg-Saint-Andéol est la commune qui compte le plus d'objets et de sites inscrits et classés monuments historiques. On peut également faire le tour de 3 équipements départementaux en faveur de la transmission des patrimoines du territoire. Bien sûr, les archives départementales sur la commune de Privas. Le département possède également un pôle archéologique départemental et un musée muséal du côté d'Alba la Romaine. Et bien sûr, le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet qui accompagne également la transmission des patrimoines sur le département de l'Ardèche. Le département, c'est aussi 8 structures culturelles conventionnées. Pourquoi ? Comme génératrice de l'attractivité du territoire. À noter le CCSTI, le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de l'Ardèche, mais également la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, le Pays d'Art et d'Histoire du Vivarais Méridional, le Musée Archéologique de Soyon, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ardèche, Terre de Dolmens et la Fondation du Patrimoine, ainsi que le syndicat mixte de restitution de l'espace de la Grotte Chauvet.
C'est vrai que le département est très fourni. Merci pour ce petit état des lieux, Enzo Roux. Je me tourne vers vous, Michel Rotterdam. Je rappelle, vous êtes chef du service culture et jeunesse au sein du conseil départemental. Comment le département de l'Ardèche soutient le patrimoine ? J'imagine que les moyens sont nombreux.
Oui, il le soutient à travers différentes manières d'agir. La plus simple, peut-être la plus visible ou la plus évidente pour les propriétaires de patrimoine, c'est de la subvention. Parce qu'entretenir du patrimoine, le valoriser, le faire connaître, ça demande des moyens que les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, petites communes ou propriétaires privés, n'ont pas toujours. Donc on est là à leur soutien, on soutient des initiatives associatives par de la subvention. Enzo Roux parlait de sites conventionnés ou de lieux conventionnés. C'est un niveau plus élevé d'engagement du département qui s'engage sur plusieurs années avec des niveaux d'intervention plus importants. Et puis, et on en parlera peut-être plus précisément lorsqu'on entrera dans le détail des 7 merveilles de l'Ardèche, on soutient également des projets de restauration et de valorisation. Donc là, on est sur, je dirais, un niveau financier et numéraire, du cash, quoi. Et les gens ont besoin de cet argent, et ça n'est pas grossier que d'en parler, parce que sans soutien financier à ces restaurations, eh bien, celles-ci ne peuvent voir le jour. Mais au-delà de cet apport financier, le département, c'est aussi de l'apport d'expertise et de la capacité à réunir différents niveaux d'expertise pour accompagner les propriétaires à aller dans le bon sens. Et donc, ça passe par de l'aide en ingénierie, avec notamment deux chargés de mission. On a Flore Vignier qui est pas là aujourd'hui, et puis Grégoire Bouvier, et puis Enzo Roux autour de cette table. Des propriétaires de patrimoine sont en difficulté, sont en questionnement, se demandent si, au fond, ils ont des capacités d'agir, dans quel sens, dans quelle direction, avec quels moyens. Eh bien, ils prennent leur téléphone, ils appellent le service, et là, on va commencer à les accompagner, à les orienter et à leur prodiguer des conseils.
Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a une première prise de contact avec vos services, et ensuite, il y a un audit du lieu, déjà, parce que certaines personnes pourraient penser détenir un petit bout de patrimoine quand il n'en est rien, ou que finalement, l'importance est relative par rapport à ce qu'ils imaginaient.
Tout à fait. Il y a un premier niveau d'échange, et puis ensuite, nos collègues peuvent se rendre sur le territoire ou orienter vers la bonne personne. Parce que, au-delà de cet accompagnement en direct, c'est aussi la capacité à réunir des acteurs experts impliqués dans les questions patrimoniales, que ce soit au niveau de l'État, les monuments historiques, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau des associations patrimoniales. Chacun amène sa pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots, et on peut apporter du conseil juridique, on peut orienter vers les bonnes entreprises aptes à rénover dans les règles de l'art, on peut orienter vers les bons appels à projets pour enrichir le plan de financement, on peut orienter vers les questions de différentes typologies de classement pour protéger objets et monuments, etc. etc.
Il y a différents leviers, Michel, vous l'avez dit à demi-mot, il y a ce levier de subvention qui peut être du département, mais quand vous orientez, vous pouvez amener aussi les propriétaires à faire appel à la région, à l'État, voire même à des fonds européens parfois.
Tout à fait sur la question des financements, mais aussi sur des questions méthodologiques, juridiques ou de moyens en ingénierie. C'est vraiment cette double approche qui caractérise l'action du département. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un document qui est une boîte à outils patrimoine, qui est élaborée par tous ces acteurs experts que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est une boîte à outils qui est à la fois en version papier et en ligne, que les propriétaires de patrimoine peuvent trouver sur le site du département et qui s'enrichit quotidiennement au fur et à mesure que des partenaires nous rejoignent dans cet accompagnement. Donc c'est très précieux pour les propriétaires que de savoir qu'ils trouvent là, normalement, des réponses à l'ensemble de leurs questions.
Quand on connaît l'attractivité de notre territoire, qu'on va voir au travers des 7 merveilles notamment, mais pas que, il y a aussi tout ce patrimoine naturel de notre beau département de l'Ardèche, on comprend que c'est assez évident ce lien entre patrimoine et attractivité du territoire. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Est-ce qu'on a pu déjà remarquer qu'après une revalorisation du patrimoine, certains secteurs regagnaient en fréquentation touristique notamment?
Oui, on l'a remarqué. Là, je vais peut-être donner la parole à Enzo sur le bilan des 7 merveilles, puisqu'au fond, c'était un bon exemple l'année dernière. Alors, est-ce que c'est à travers la restauration et la rénovation du patrimoine ou la mise en valeur et l'événementialisation de ce patrimoine? J'ai souvenir, je crois, d'un concert au château de la Rivoire, si mes souvenirs sont exacts, ou le propriétaire, mais je donne la parole à Enzo.
Oui, alors en effet, sur les 07 merveilles, on y reviendra sur le contenu de ce programme, mais c'est mettre en avant 7 lieux chaque année sur le territoire, l'ensemble du territoire, avec un coup de projecteur en communication et puis une aide financière aux besoins.
Ça a commencé quand, Enzo, ces 7 merveilles?
La première édition, c'était l'an dernier, en 2024, en avril 2024, c'était le lancement officiel de ce nouveau cycle initié par le département, qui a été un premier succès, et cette année, on renouvelle l'expérience avec encore un peu plus d'ambition, mais nous y reviendrons. Et en effet, on a eu un premier retour d'expérience qui fait qu'on a pu élargir le panel des spectateurs et des visiteurs sur chacun de nos sites. C'est plus simplement une clientèle locale, mais on est allé chercher les départements voisins, notamment, sur certains lieux, dont la Rivoire. Et on a également une hausse de la fréquentation pendant les journées européennes du patrimoine sur beaucoup de lieux. Ils avaient une fréquentation moyenne qui s'est vue augmenter après le passage des 07 Merveilles de l'Ardèche sur leur site.
Donc l'idée, c'est de donner lieu, donner naissance à des événements culturels sur des sites patrimoniaux remarquables pour les valoriser. Oui, Michel ?
Oui, et pour aller dans le sens, c'est tant à la fois les questions de rénovation, mais le sens qu'on y met et la façon dont on rend ces rénovations accessibles au public. Je vais prendre un autre exemple emblématique plus récent sur le territoire ardéchois, le château d'Aubenas, qui a fait l'objet d'une vaste rénovation patrimoniale, qui, outre la découverte de ce patrimoine incroyable et restauré de façon particulièrement soignée, offre un centre d'art contemporain, permet de mélanger la création artistique et la dimension patrimoniale. Et donc, on voit bien que quand des partenaires publics mettent des moyens ou privés mettent des moyens sur une restauration et sur le sens qu'ils y mettent, eh bien, le public est au rendez-vous. Et moi, je voudrais donner deux exemples qui ne sont pas forcément hors des choix pour expliquer cet attachement au patrimoine. Le premier, c'est qui est lié au patrimoine détruit. Souvenez-vous de l'émoi de la communauté internationale lors de la destruction des Bouddhas géants par les talibans en 2001. Et tout d'un coup, c'est tout un pan d'une culture et d'une culture d'appartenance qui disparaissait. Et de façon beaucoup plus proche, nous avons tous été stupéfaits de l'adhésion populaire et de la détresse populaire au moment de l'incendie de Notre-Dame et ce qui s'est passé autour de cet incendie où tout un pays s'est mobilisé sur ce qui faisait patrimoine commun. Donc on voit bien que si le patrimoine est important, sa disparition crée un vide et extrêmement douloureux pour les habitants, ce qui prouve son importance dans leur vie au quotidien.
Merci Michel pour ces précisions. On se retrouve avec vous, Michel Rotterdam, avec Nicolas Dupuis, avec Enzo Roux pour la suite de ce magazine Archivif. Après une petite respiration musicale, on écoute le tout récent groupe ardéchois Les Frères Nomades et leur titre Les Ardéchois.
Les Ardéchois aiment bien festoyer. Un saucisson bien tendre, un verre levé. Cochon, fromage, tout pour se régaler. Le chèvre fonte sur un bout de pain. Avec caillette, c'est le festin. Quand l'accordéon joue et fait danser, les cœurs ardéchois sont prêts à s'enflammer. Oh les musettes, chante la vie d'ici. Autour du vin, l'amitié fleurit. On pagaille fort, on rit, on chante. L'eau claire murmure, larmes vivantes. Châtaignes grillées près du feu de bois. On raconte les légendes d'autrefois. Le vin local et la danse qui tourne. En Ardèche, c'est la joie qui séjourne. Oh, et musette, chante la vie d'ici. Autour du vin, l'amitié fleurit. Châtaignes dorées, canoës sous le vent. En Ardèche, on rit. Sous les étoiles ou la voûte d'été, on vit, on rit sans jamais compter. C'est l'Ardèche, l'éternité. Oh, et musette, chante la vie d'ici. Autour du vin, l'amitié fleurit. Châtaigne dorée, canoë sous le vent. En Ardèche, on rit.
Les Frères Nomades avec leur titre Les Ardéchois.
Archivif.
La suite de la première émission de ce deuxième cycle d'émissions Archivif en lien avec le département de l'Ardèche et avec les sept merveilles de l'Ardèche. Justement, Enzo Roux, cette valorisation de ces sept merveilles de l'Ardèche, déjà, ces merveilles, elles vont être les mêmes chaque année ou finalement, il y a plus que sept merveilles sur notre département. Les lieux vont tourner, si vous me passez l'expression.
Tout à fait. En effet, chaque année, c'est sept nouveaux lieux patrimoniaux qui sont mis en avant. Le but, c'est d'aller chercher des propriétaires, des propriétés publiques et privées qui ont reçu un subventionnement du département au cours des dernières années et d'accompagner leur ouverture plus large au public et bien sûr d'accompagner un public des fois bien éloigné de la culture vers ces lieux encore méconnus. C'est donc sept lieux qui ont fait l'objet en 2024 d'un coup de projecteur pour leur événementiel déjà en place, de la musique, du théâtre, devant des sites remarquables Et cette année 2025 marque une nouveauté avec l'introduction du sport dans ces lieux patrimoniaux, notamment à la suite des Jeux Olympiques qui nous ont donné à voir de magnifiques portraits. Et donc l'intérêt des 07 Merveilles de l'Ardèche, c'est d'apporter au public cette nouvelle entrée vers les patrimoines, pas seulement la visite guidée, mais d'aller chercher des animations culturelles à mettre sur site.
Alors justement, on ne vous a pas encore entendu, Nicolas Dupuis, vous êtes, je le rappelle pour nos auditeurs, hein, directeur délégué au sport et à la vie associative au sein du département de l'Ardèche. Enzo vient de le dire, avec les Jeux Olympiques, ces images incroyables, avec du sport devant, une cérémonie d'ouverture qui a mis en valeur tout le patrimoine parisien aussi. Comment on peut et pourquoi pratiquer du sport dans ces lieux? Comment vous l'imaginez, vous, au sein de vos services?
Je crois que ça a été dit, hein, l'exemple des Jeux Olympiques de Paris a été tout à fait remarquable. Une des raisons de pratiquer du sport dans des lieux patrimoniaux, c'est finalement qu'aujourd'hui, un événement sportif, c'est d'abord et avant tout une vitrine pour la ville qui organise ou pour le pays. Et donc intégrer des épreuves dans des lieux emblématiques, on pense tous évidemment à l'escrime au Grand Palais ou au tir à l'arc aux Invalides. Cela permet tout simplement de montrer la richesse patrimoniale à la fois aux Français mais aussi au monde entier. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison de pratiquer dans un lieu patrimonial, c'est sans doute de pouvoir créer des événements encore plus spectaculaires. Le contraste entre la puissance du sport et la beauté des lieux patrimoniaux crée des images fortes dont tout le monde se souvient, et tout le monde se souvient de ces images des Jeux Olympiques de Paris notamment. Et puis peut-être la dernière raison, c'est aussi d'offrir une expérience tout à fait unique aux athlètes et aux spectateurs, ceux qui ont eu la chance de participer ou d'assister aux épreuves des JO de Paris en 2024. Le savent. Ces lieux chargés d'histoire offrent une expérience unique et atypique et puis marquent durablement leur carrière s'agissant des sportifs ou en tout cas leur expérience s'agissant des spectateurs.
Il y a pas mal d'enjeux, on l'entend bien. Il y a toute cette symbolique aussi finalement d'un territoire qui est dans le présent et même tourné vers l'avenir sans oublier son passé. Ça aussi, c'est très fort dans des images de sport, même au niveau local, Nicolas.
Oui, absolument. Enfin, ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est ce rapprochement du coup entre le monde du sport et de la culture. La symbolique, ça peut être en tout cas celle de l'union entre le corps et l'esprit, et puis entre le contraste entre l'effort physique et la beauté artistique. Aujourd'hui, le sport moderne, c'est pas uniquement une préparation physique, ça suffit pas. Ce qui va faire la différence, c'est l'intelligence de jeu, c'est la lucidité intellectuelle, c'est la préparation mentale. Et finalement, ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau et un champion, c'est un peu la même différence que celle qu'il y a entre une œuvre et un chef-d'œuvre. Donc il y a une vraie proximité symbolique entre les deux. L'autre symbolique, c'est sans doute, à mon sens, celle du dépassement de soi. Non seulement les athlètes se confrontent à leurs adversaires, mais aussi sont confrontés aux lieux dans lesquels ils évoluent. Ça leur rappelle, il y a une charge historique dans ces lieux-là. Quand on parle, tout à l'heure j'évoquais le Champ de Mars ou les Invalides, ce sont des lieux patrimoniaux qui font écho à souvent des guerres, des combats. Et donc le patrimoine, ça rappelle aussi l'abnégation, la souffrance, l'effort. Et donc il y a une vraie relation. Et puis dernier symbole pour moi, évidemment, est beaucoup plus évident. Et là, je vais peut-être revenir un peu en Ardèche, même si les JO en relèvent de la même logique. C'est la question de la fierté. C'est tout simplement rendre fiers les habitants de leur patrimoine et de leur montrer à travers des épreuves sportives. Ça participe de cette fierté. Et comme le disait très justement Michel tout à l'heure, être fier d'un patrimoine, c'est aussi mieux le protéger et aussi s'en saisir ou en tout cas s'en émouvoir lorsqu'il est mis en danger.
Au même titre que ce que nous expliquait tout à l'heure Michel Rotterdam, le chef du service culture, quand un porteur de projet arrive vers vous, un porteur de projet sportif, est-ce que vous avez tout de suite déjà, en tout cas, intégré ce réflexe de dire tiens, comment on pourrait faire évoluer ce projet sportif en le soutenant et en l'intégrant aussi avec ces questions patrimoniales?
Alors la vérité, c'est que les JO de Paris, c'est pas si vieux que ça. Des projets d'organisation d'événements dans des sites patrimoniaux, c'est pas encore très courant. On n'en est pas à l'encourager, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais ce sont d'abord et avant tout des lieux patrimoniaux, et il faut que ça reste exceptionnel, il faut que ça reste ponctuel.
Il y a un côté sacré ?
Il n'y a pas un côté sacré, mais il y a vraisemblablement un côté fragile, c'est-à-dire ces patrimoines, on le sait, et quand bien même tout à l'heure j'évoquais le fait qu'ils représentent la puissance, ce sont aussi souvent des patrimoines fragiles, et que parfois l'organisation d'événements sportifs, voire même culturels en leur sein, peut compromettre. Donc il faut que ça reste exceptionnel. Puis je pense que la valeur de l'événement est d'autant plus importante que justement ça reste exceptionnel. Donc on ne s'interdit évidemment pas de pouvoir organiser, et on va le faire dans le cadre des 7 merveilles, des événements sportifs dans des lieux patrimoniaux, mais il ne faut pas que évidemment ces sites deviennent les installations sportives de demain.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, et là je me tourne vers vous Michel Rotterdam, il y a un enjeu qui est celui des publics éloignés, c'est-à-dire que l'entrée sportive, l'entrée culturelle, elle peut amener des habitants du territoire ou même des départements limitrophes et d'ailleurs à découvrir ce patrimoine alors que c'est des publics qui n'y seraient pas forcément allés de leur propre volonté. Ça aussi c'est important et c'est un objectif que vous gardez en tête, Michel.
C'est un objectif qui traverse toutes nos façons d'agir. Est-ce que le fait de créer un événement culturel dans un site patrimonial amène des publics plus éloignés au patrimoine ou est-ce que c'est l'inverse ? Parce qu'encore une fois, l'adhésion populaire au patrimoine, le sentiment d'appartenance, le fait que ça raconte une histoire singulière, l'histoire des gens qui sont là, et le patrimoine, c'est une acceptation large. On le voit notamment sur les questions d'un patrimoine industriel plus récent, lorsqu'une entreprise ferme, l'attachement des gens qui ont travaillé dans cette entreprise à maintenir une trace, à maintenir une mémoire qui raconte leur histoire est extrêmement importante. Donc parfois, le patrimoine est plutôt l'occasion d'aller découvrir des formes artistiques auxquelles des publics plus éloignés n'iraient pas. Ça serait ma première réponse. La deuxième est que tout cela s'accompagne de ce qu'on appelle la médiation ou l'action culturelle, qui fait que l'idée qu'au fond, le public vivrait un choc émotionnel instantané face à une œuvre d'art ou face à un patrimoine qui le dépasserait, on ne va pas la nier, mais elle ne s'impose pas forcément en soi si on n'amène pas ce public à créer les conditions de ressentir cette émotion et d'accéder à la complexité de l'œuvre, de trouver les moyens de s'identifier à cette œuvre, de lui donner sens. Et c'est comme ça que naissent un certain nombre de dispositifs, de compétences, de professionnels de la médiation qui permettent de créer ces ponts, ces passerelles entre des publics. Je parle jamais de public éloigné de la culture, parce que chaque public a sa culture, de peut-être public éloigné d'une certaine offre culturelle. Et lorsqu'on souhaite travailler sur la diversité culturelle, permettre aux cultures de se croiser, d'enrichir son imaginaire en élargissant ses compétences, eh bien il faut créer les passerelles, il faut créer les ponts, et c'est là qu'intervient la médiation. La nouveauté dans les 7 merveilles cette année, c'est de l'accroître par un volet dédié, par exemple, au public scolaire, pour leur donner ces clés d'accès au patrimoine.
C'est un point de vue que vous partagez, j'imagine, Nicolas Dupuis, avec votre angle plus sportif.
Oui, bien sûr, c'est un point de vue que je partage, puis on ne va pas se le cacher, c'est vrai que le sport et la culture ont traditionnellement et sont encore parfois des domaines distincts, voire parfois opposés, et je suis convaincu que le patrimoine offre un terrain de rencontre privilégié entre ces deux mondes, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, parce qu'ils offrent un écrin un peu particulier, et je partage complètement ce que vient de dire Michel sur le fait que ça ouvre la curiosité des usagers. Alors pour la petite histoire, les publics éloignés, dans le sport, on en a aussi. Et on appelle d'ailleurs les publics éloignés de la pratique sportive. On appelle ça des PEPS. Je trouve ça intéressant de se dire qu'il est important de mettre du PEPS dans le sport et la culture.
Alors, avant d'ouvrir sur le prochain podcast avec vous, Enzo Roux, dernière question. Je sais qu'il existe dans le département des aides, des dispositifs pour accompagner des actions culturelles. Michel Rotterdam, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sigle un petit peu comme ça, qui peut paraître bizarre à nos auditeurs, le CTEAC.
L'idée des CTEAC, c'est assez simple. C'est né d'une idée de l'État il y a une dizaine d'années, à peu près, un peu plus d'une dizaine d'années, qui consistait à dire que dans des territoires où il y avait peu d'offres institutionnelles culturelles, et donc peu de relations à professionnels de la culture ou à des offres qualitatives culturelles, eh bien, il fallait travailler ces territoires pour les publics. Et les travailler, c'était non pas amener des œuvres à des publics supposés sans culture, avec une logique un peu condescendante. Au fond, nous serions des sachants forts de nos certitudes et d'un héritage privilégié qui viendrait civiliser des populations dépourvues de culture, mais plutôt de se dire comment on fait société commune. Et faire société commune à travers l'art et la culture, ça a été théorisé sous l'angle de ce qu'on appelle les trois piliers. Les trois piliers, c'est concevoir un projet ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas des professionnels qui pensent un projet pour une population, mais c'est un territoire qui se met autour de la table. Et quand on dit territoire, c'est à la fois des acteurs du patrimoine, des acteurs éducatifs, des acteurs du champ social, des habitants, et qui vont ensemble inventer, imaginer ce qui serait bon pour eux en matière d'accès à l'art et à la culture. On doit permettre aux habitants, au public concerné, de se confronter aux œuvres et aux professionnels. Mais si on ne fait que ça, alors on peut être la proie de simplement la personne que l'on a en face. Ça peut être des démarches de domination et on se livre finalement à l'artiste ou à l'œuvre qui est en face de nous. Et au fond, être s'émanciper, c'est aussi être capable de se confronter à cette œuvre et à cet artiste, mais de s'en émanciper par un discours critique, par une culture générale. Et puis le troisième pilier, c'est être soi-même acteur et permettre soi-même de toucher à l'art, de toucher à la recherche, de toucher au patrimoine et d'être en situation de pratique. Et lorsqu'à la fois on a un projet qu'on a contribué à définir, qui nous permet de rencontrer des grands artistes ou des grands scientifiques, de soi-même expérimenter de la science ou de l'art, et de se forger une distance critique et une éducation, alors on devient un citoyen éclairé. Et au fond, quoi de plus beau que cela pour construire un avenir peut-être un peu optimiste. Et nous en avons besoin en ces temps qui courent. Donc en Ardèche, nous avons 12 CTEAC, qui sont des conventions qui mettent d'accord tous ces partenaires et qui sont signés avec entre eux une intercommunalité, le département de l'Ardèche, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de la Culture, l'Éducation nationale et d'autres partenaires, parfois la CAF. Et nous apportons des moyens financiers autour de cet objectif commun.
D'accord. Concrètement, il y a eu déjà pas mal de choses qui sont rentrées dans ce dispositif.
C'est un dispositif qui existe depuis 10 ans. Je vais donner par exemple un exemple d'une action assez récente qui est en cours, qui a lieu qui a trait une dimension patrimoniale. Ça se passe en Bergues-et-Coiron. Bergues-et-Coiron, il y a un pôle dédié au cinéma documentaire, bien connu des Ardéchois, à l'USAS. Eh bien, la proposition qui est faite, c'est de faire un appel à archives visuelles. On a tous filmé des vacances, des familles, des enfants qui marchent, des paysages magnifiques au moment du printemps, etc. Et donc, ça a été d'appeler l'ensemble des habitants de ce territoire à venir déposer des archives visuelles, car des images à récupérer. Ça a eu un très gros succès. Il y a eu énormément de donateurs et qui a donné lieu à un premier montage et qui va continuer à s'affiner, qui s'appuie également sur des structures relais qui sont les médiathèques et qui petit à petit, avec les productions des gens et la façon dont les gens décrivent eux-mêmes leur territoire, va aboutir à un film qui va être le portrait de ce territoire. Tout le monde a été acteur, tout le monde est critique. C'est un artiste et un documentariste qui va créer cet ensemble et qui va le magnifier en œuvre d'art. On est vraiment sur une illustration parfaite d'un projet de CTEAC.
Très rapidement, Nicolas Dupuis, est-ce qu'il y a des dispositifs comparables avec le sport ?
Malheureusement, non. On est aujourd'hui vraiment aux prémices de quelque chose qui se construit là aussi avec les territoires. Michel en a parlé, la médiation est importante en matière culturelle. Elle est un petit peu moins en matière sportive parce qu'il y a possibilité d'expérimenter soi-même de manière un peu plus facile. Et puis, soit dans un cadre familial, soit dans un cadre scolaire. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte que le sport peut aussi être porteur de valeurs importantes qui font société là aussi. Aussi la question du respect, notamment la question de l'esprit critique. Et on a aujourd'hui des débats que dans le sport qu'on n'avait pas auparavant, c'est celui de la lutte contre les violences de toute forme, qu'elles soient physiques, morales, psychologiques, sexuelles. Et donc il y a de plus en plus besoin de former, d'informer, de sensibiliser, d'éduquer aussi au sport. On a trop longtemps cru que voilà, le sport était quelque chose qui était plus facile, plus accessible et qui n'avait pas besoin de cette médiation. Et aujourd'hui, l'exemple de la culture, pour nous, est aussi un exemple à suivre.
Merci pour ces précisions. Avant de se quitter, Enzo Roux, quelques infos sur la prochaine émission Archivif, prochain épisode, qui aura lieu autour d'un certain bicentenaire dans la ville de Tournon-sur-Rhône.
Exactement, le bicentenaire de Pont Seguin qui fête cette année anniversaire avec une programmation complète de la musique, du théâtre, des conférences tout au long de l'année. Et l'occasion aussi pour les prochains podcasts de revenir à chaque fois sur un lieu qui sera mis en avant dans les 07 merveilles de l'Ardèche. Et donc nous y reviendrons petit à petit, et je tenais aussi à remercier le fonds de dotation Abi de l'UIAC qui accompagne et qui est le partenaire de ces événements tout au long de l'année.
Eh bien moi je vous remercie chaleureusement tous les trois d'être venus vous installer autour de cette table pour nous présenter ce qu'allait être un petit peu ce nouveau cycle d'émissions Archivif entre patrimoine, culture et sport. Enzo Roux, je le rappelle, vous êtes chargé de mission 07 Merveilles de l'Ardèche, Michel Rotterdam, chef du service culture et jeunesse au sein du département, et Nicolas Dupuis, directeur délégué au sport et à la vie associative au sein de ce même département. Merci à tous les trois et à très bientôt.
Archivif, un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.